zone buissonnière. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les ondes buissonnières. Pour démarrer cette année, nous allons écouter sur le vif Les voix de la résilience, une création radiophonique en 6 épisodes, réalisée par Radio des Boutières avec la participation du collectif Vif Hérieux. C'est un podcast qui invite à élever la voix contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche. Victimes, praticiens, praticiennes, gendarmes et associations locales témoignent et nous racontent comment cultiver la confiance et la résilience quand le tabou des coups et du silence frappe au plein cœur des montagnes. Aujourd'hui, vous allez donc écouter l'épisode 1. J'ai donné la vie à mon fils, lui a sauvé la mienne. Bonne écoute.
Je suis venue ici pour me faire entendre, que ma voix soit entendue, parce que c'est la mienne, c'est mon histoire, mais c'est celle de plusieurs femmes. Et j'ai besoin, là, j'arrive à un stade de ma reconstruction, j'ai besoin d'être enfin entendue. Que mon histoire soit entendue et qu'elle ne soit pas juste un numéro de dossier ou c'est pas grave, madame.
Sur le vif.
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 Sur le vif. Un podcast qui invite à élever la voix, nos voix, contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche. Capturées sur le vif, ces voix que vous allez entendre témoignent d'un récit de vie qui a probablement lieu à côté de chez nous, au cœur de nos villages, chez nos voisins. Des récits meurtris et marqués par des violences systémiques et familières, souvent ignorées par les institutions. Pourquoi ? Quelle forme prennent ces violences pour arriver à nous faire taire ? Pourquoi le silence est roi dans nos montagnes ? Comment en finir avec le tabou des coups, ici, en Ardèche ? Ce sont des questions que nous allons nous poser tout au long de ce podcast, en compagnie de voix, force de résilience.
En 2014, j'ai rencontré monsieur. Et en fait, c'était pas du tout quelqu'un. J'ai pas de style particulier, mais c'était pas du tout quelqu'un qui correspondait à mes critères, de base, quoi. Mais je me suis dit, bon, c'est pas que le physique qui compte. Et je me suis dit, il y a quelque chose quelque chose à creuser. Et donc j'ai creusé et je trouvais des choses intéressantes chez lui. Ça se passait bien. Avec le recul, je me rends compte que ça se passait pas bien du tout dès le départ, mais ça, c'est avec le recul et la reconstruction. Mais pour moi, tout allait bien. En fait, il était là. Il s'intéressait à moi, il était là, en étant simplement là. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais en fait, c'est qu'il s'intéressait à moi. C'était moi et c'était pas une autre femme.
Comment il s'intéressait à vous ?
Avec moi.
Il s'intéressait à ce que vous faisiez, à votre travail, à vos intérêts ?
Non.
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 Elle, c'est Clara, Laurence ou Fabienne. Peu importe son nom, c'est avant tout une voix qui s'élève face au tabou des violences conjugales, qui brise des vies dans le silence, au cœur des montagnes. Elle vous livre aujourd'hui son témoignage, ce qu'elle a vécu, ici, dans la vallée de l'Hérieux. Son combat, au nom de toutes celles et ceux qui se battent, ou se sont battus.
petite dispute. Je ne veux pas me lever le dimanche matin pour aller dans ta famille parce que j'ai travaillé toute la semaine et franchement, je préfère dormir. Et je me suis dit, on va pas se prendre la tête pour des bêtises pareilles. Et finalement, en fait, c'était pas de la fatigue, c'était juste une excuse pour pas y aller. Je m'expliquais comment couper les tomates pour faire une salade. Parce qu'on les coupe de cette manière, pas d'une autre, parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Et la fois d'après, donc pour éviter de le froisser, j'ai fait à sa manière. Il me dit, mais ma biche, pourquoi tu fais pas ta manière quand même? Donc en fait, toujours des choses qui déstabilisent. En fait, c'était constamment ça. Je ne m'en rendais pas forcément compte, parce que quand on est là-dedans, en fait, on se dit, ça va, c'est le couple, c'est comme ça, il faut mettre le loup dans son vin. Et en fait, petit à petit, les choses prennent une ampleur énorme et on rentre dans un cercle vicieux.
Des comportements incohérents.
Exactement.
Donc, vous ne saviez plus comment penser sur...
C'est ça.
Sur quelle réaction vous pouvez attendre de lui.
C'est ça. Sur la fin, j'avais beau me préparer, me dire il faut que je fasse ça, que je ne dise pas ça ou que je dise ça, que je fasse attention, que je pose pas trop de questions ou alors que j'en pose pas du tout. En fait, il y a rien qui allait. Parce que même si il y avait eu un mode d'emploi pour sur son fonctionnement et que j'avais suivi, il y aurait eu quand même des choses qui n'auraient pas plu à monsieur. Rien n'allait. Tout était bon pour avoir des reproches. Je ne savais plus ce qui était vrai, faux, ce qui était normal, pas normal. En fait, c'est un reformatage du cerveau qui se fait mais en silence et qui est assez violent. Et en fait, on ne sait plus on sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on doit faire. On est juste un corps qui marche, quoi, mais un cerveau...
Il vous a retourné le cerveau.
Ouais, un cerveau arrêté. Je ne parlais plus à mes proches, parce qu'en fait, pour lui, mes proches étaient mauvais, ils nous voulaient du mal. Et puis ils ont assisté à des scènes qui ne leur a pas plu. Donc, ils ont préféré se mettre un petit peu à l'écart. Et en plus de ça, c'était ce qui est assez fou, ce qui peut paraître fou quand on est de l'extérieur, c'est que en fait, ils n'interdisaient pas clairement les choses. C'est si tu vas voir tes proches, tu sais qu'en retour, tu auras des reproches, les pires reproches. Donc, tu vas regretter d'être parti, d'être allé les voir. Si tu vas faire des courses toute seule, je ne pouvais pas faire des courses toute seule, c'était lui qui faisait des courses, on allait les récupérer ensemble, parce que c'était notre promenade, notre sortie. Et en fait, je ne pouvais pas les faire toute seule. La seule fois où j'ai pu les faire, il a regardé le ticket de caisse. Il a regardé en détail, et le prix avait changé, parce que la taille des couches avait changé. Donc le prix avait changé aussi, et c'était un nuage noir. Des proches m'ont mis en garde. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on prend conscience de tout ça une fois qu'on a quitté la personne et qu'on commence à faire un travail sur soi. Sur le coup, on s'en rend pas compte. Notre cerveau ne fonctionne plus, clairement. Et on se dit, c'est ma vie, quoi. Donc, personne... Enfin, je gère.
Les femmes victimes de violences domestiques en milieu rural sont doublement victimes. Elles sont bien sûr victimes de violences physiques et psychologiques subies, comme toutes les autres femmes exposées à cette situation. Mais elles sont aussi victimes de difficultés supplémentaires. L'isolement géographique, le manque d'accessibilité aux structures du service public pouvant les prendre en charge. Ce sont des difficultés liées au fait même de vivre en milieu rural.
Pendant la grossesse, les violences sont accentuées. Alors déjà, il fallait que j'aille faire mes échographies avec ses proches, sa mère. Donc je voulais pas. Et il m'a dit c'est la moindre des choses que tu puisses faire pour elle. Ensuite, en fait, j'ai été en quelque sorte une mère porteuse parce que je ne pouvais pas décider du prénom qu'allait porter mon fils. Je ne pouvais pas décider de la chambre, des vêtements qu'il allait porter. Je ne pouvais rien décider. Quel spécialiste aller voir. Je ne pouvais rien faire. Donc ses proches ont été là, lui disaient ce qu'il fallait que je fasse et lui disaient « Écoute mes proches, c'est eux que tu dois écouter, c'est pas toi. » Ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils disent.
Vous lui apparteniez.
Ouais. On va dire qu'il était présent entre guillemets en me disant « Ma biche, il faut que tu fasses ça. Ma biche, il faut que tu ailles donner le bain. Ma biche, il faut que tu lui fasses à manger. Ma biche, il faut que tu ailles changer sa couche parce que là, je crois qu'elle est pleine. » Et une fois, je lui ai dit « Écoute, j'ai pas fait à manger encore, donc je te laisse lui donner le bain et je vais faire à manger en attendant. » Et il m'a dit « Non mais, tu te rends compte ce que tu fais là? C'est notre moment à tous les trois. Tu te rends compte ce que tu fais à ton fils? Tu l'abandonnes pour aller faire à manger. T'as pas l'esprit de famille. » Il a pas pu faire du quatre pattes parce qu'il y avait une couverture par terre à ne pas dépasser. Si par malheur, il avait sa main qui dépassait la couverture en essayant de se retourner, c'était une crise. Tu sais pas t'occuper de lui, ma biche, t'es pas capable de t'en occuper, de le surveiller. Tu fais n'importe quoi. Je vais appeler les services sociaux et tu le verras plus. Tu vas regretter ce que t'as fait. Si par exemple, je couchais mon fils 5 minutes avant l'heure habituelle le soir, il me disait « Tu fais quoi là, ma biche ? T'as qu'à dire qu'il t'emmerde ? Fallait réfléchir avant de le faire. T'as qu'à dire qu'il est trop, en fait. » C'est arrivé pour un anniversaire qu'ils boivent et il a porté notre enfant pour rentrer à la maison. Je lui ai dit de le laisser dans la poussette et il ne voulait pas. Et il m'a dit « crève ». Donc je lui ai dit « pardon ». Donc là, j'étais dans ma bulle complètement sonnée. Il m'a dit « crève ». Et ce jour-là, en fait, j'ai eu peur. Je me suis dit tu vas y passer. Donc j'ai fait le numéro le 17. Et j'allais appuyer sur le bouton pour appeler. Et j'ai dit non, tu peux pas faire ça pour ton fils. Tu peux pas faire ça pour ton fils. Donc j'ai tout arrêté. Je suis allée me coucher. Il s'est endormi. Et le lendemain, il dit tu te rends compte comme tu m'as humilié là? C'est à cause de toi maintenant que plus personne ne veut voir. Tu mérites ce que je t'ai dit. Tu l'as cherché.
Selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes, en France, en 2022, 239 000 victimes de violences au sein du couple ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie. 86% des victimes sont des femmes. En Ardèche, selon les chiffres du département, 1446 victimes ont été recensées la même année. Ces violences constituent 47,8% des coups et blessures volontaires.
Il n'y a jamais eu de coups. Il y avait toujours le geste. La main qui était très proche, son front contre le mien, avec son regard de diable. Et il y a eu des violences aussi sexuelles. J'ai 10 jours après l'accouchement, qui a été assez difficile. Mon enfant était assez gros, donc j'ai eu des points. Et 10 jours après, en fait, monsieur avait une envie. Donc il m'a déshabillée. Je lui ai dit non, j'ai pas envie, je suis pas bien, j'ai mal. Et il m'a forcée. Donc il m'a déshabillée et il m'a dit ma biche, mais dis du tien. On a fait un enfant ensemble, on est une famille, c'est la moindre des choses que tu puisses faire. J'étais mon esprit était parti. Les larmes ont coulé toutes seules. C'est la douleur que je ressentais à chaque va-et-vient. En fait, j'avais l'impression que les poings s'arrachaient. Et son odeur de tabac et de cigarette en même temps, c'était un dégoût. Je priais pour que ça se termine le plus rapidement possible. Je me suis sentie honteuse, salie, nulle. J'ai la chance d'avoir eu un enfant avec lui. Ça paraît fou ça aussi, mais j'ai de la chance d'avoir eu un enfant avec lui parce que c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui, d'être en vie, parce que je serai soit en psychiatrie, dans un état, un lambeau, soit sous terre. Elle aurait fini par me tuer. Et en fait, le fait d'avoir un enfant avec lui, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, c'est pas possible que notre enfant trouve normal le comportement que son père a avec moi et a avec n'importe quelle femme et reproduise la même chose plus tard. Je me suis dit, mon fils, il faut que ce soit un homme bon et heureux plus tard. J'ai eu la chance d'avoir mon fils. Je lui ai donné la vie, mais c'est lui qui a sauvé la mienne. J'aurais pas eu mon fils, j'aurais pas trouvé toute cette force et ce courage.
Comment s'est passé le départ ?
Clairement, en fait, je ne pouvais pas accéder à mes comptes en banque, je ne pouvais pas accéder aller chez le médecin comme je le voulais. J'étais toujours accompagnée, la sage-femme pour la rééducation après l'accouchement, pareil, je ne pouvais pas y aller parce que, selon lui, c'était pas utile. La pharmacie, je pouvais pas y aller toute seule non plus, donc en fait, je ne pouvais pas. J'avais toujours mon téléphone en silencieux et je téléphonais à ma mère. Donc après, j'ai réussi à reprendre contact avec mes proches et ma mère qui a. Je raccrochais des fois quand je l'entendais arriver, je raccrochais donc où elle savait que c'est parce qu'il arrivait. Et ma mère avec ma sœur ont fait nécessaire avec le médecin. Donc le médecin qui nous a dirigés vers le planning familial. Et voilà, elles ont fait le nécessaire ensemble. Elles ont préparé mon départ ensemble. Parce que je ne pouvais pas le préparer. Ça a demandé en fait une préparation en amont. Donc, il a fallu que ma sœur dise « Ben tiens, tu viendras faire les magasins avec moi. » Et donc, il a accepté. C'est étonnant, mais il a accepté. Ma sœur et ma mère avaient acheté des vêtements, des choses pour faire croire qu'on était vraiment allé faire les magasins. Et en fait, on est allé à la gendarmerie pour déposer une main courante. Ça a été très compliqué. Alors, c'était un jeune gendarme, très gentil, donc il m'a posé des questions. Et quand il a abordé le sujet des rapports, est-ce qu'ils étaient consentis ou non, et que j'ai répondu non, il m'a dit, il faut que je joue avec mon chef, parce que là, c'est grave. Son chef arrive, et son chef s'assoit sur la table et me dit, non mais madame, il y en a 9 sur 10 qui viennent des femmes comme vous tous les jours, donc vous faites votre sac, vous partez. Il est aussi malheureux que vous, et il n'y a pas besoin d'inventer des choses pareilles. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible ce qui se passe. Je me revois pleurer avec le nez qui coule, les larmes de partout. Et je me suis sentie complètement ridicule face à 3 gendarmes. Et je lui ai dit, mais je j'ai pas pu partir comme ça. Je me suis dit, il a raison. C'est rien. Tu fais ton sac, c'est juste que t'as pas le courage de partir, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, je vais y passer. Je vais y passer dans cette maison. Et donc, ma mère et ma sœur ont appelé le planning familial. Et le planning familial est allé les voir en leur disant, c'est pas possible d'avoir un accueil pareil. Donc, le major de l'époque a fait le nécessaire pour que... ils ont vu ensemble pour préparer mon départ aussi. Et une semaine après... ma sœur m'appelle et me dit, écoute, là, ils sont prêts, tu peux soit partir et ils viendront chercher tes affaires, t'accompagneront, soit ils viennent te chercher, ils prennent tes affaires et après tu vas déposer plainte. Et j'ai dit, mais là, c'est pas possible. En fait, c'est à moi de prendre la décision maintenant. Et c'était terrible. Et en fait, ce qui m'a donné le courage de partir, c'est que le matin, comme tous les matins, je me réveillais comme un zombie et je faisais ce que je pouvais, du mieux que je pouvais, pour pas créer de crise. Et je faisais la vaisselle et monsieur s'est approché pour me faire un bisou. J'ai refusé. Il m'a dit, mais t'es qu'une bouffonne. T'es vraiment finie à la pisse, ma pauvre. Et là, j'ai dit, ça peut plus durer. C'est pas possible. Donc, je suis allée à la douche. J'ai allumé le robinet et j'ai envoyé des messages à ma sœur lui disant, écoute, c'est bon, je pars. C'est aujourd'hui. La chance que j'avais, c'est que j'avais lavé le siège autour de mon fils. Donc, il était sur la table et je lui ai dit, je vais remettre la housse et le siège dans la voiture. Et là, je lui ai téléphoné. Et elle m'a dit, écoute, c'est bon, je les ai eus au téléphone et tu peux venir à 14h. On y va pour 14h. Donc je me suis dit, c'est bon, c'est terminé. Et je suis rentrée avec une force que j'aurais jamais imaginée. Je dis, je pars, je vais prendre l'air. Donc il m'a dit, d'une voix toute mielleuse, mais qu'est-ce que tu fais, ma biche, mais reste, c'est rien, ça va passer. J'ai dit, non, là, j'ai besoin de prendre l'air, je pars, je vais chez ma sœur. Je suis partie vers 13h30 et je suis revenue à 23h pour récupérer mes papiers, mon fils, des vêtements que j'ai même pas pris pour moi. J'avais même pas un sous-vêtement parce que j'étais tellement prise dans ce truc de... L'après-midi avait été très éprouvante. Parce que l'audition, le dépôt de plainte a duré toute l'après-midi. Et j'arrivais plus à réfléchir. J'étais épuisée. Donc les gendarmes ont attendu que la plainte... Enfin, que l'audition se termine. Et ils m'ont accompagnée, donc ils sont restés à l'écart, à l'extérieur. Et si ça se passait mal, en fait, il fallait les appeler. Et ça s'est pas très bien passé, donc ils sont venus. Et ensuite, donc ils sont rentrés à la maison et il s'est calmé. Et je lui ai dit, je pars. Je ne reviendrai pas. Et je suis jamais revenue.
Sur le vif.
De l'accueil de ce gendarme. Vous avez été confronté à le voir plusieurs fois, ce gendarme ?
Oui, je l'ai vu à plusieurs reprises. Pour lui, ça se passait bien. J'avais un accueil parfait. Mais ce n'était pas le cas. Un jour, j'y suis allée pour déposer une main courante et celui-ci m'a dit, en fait, je comprends qu'il a envie de vous tuer quand il vous voit. Vous lui enlevez son fils. Je dis, mais il y a eu un jugement, donc je ne lui enlève pas. Il m'a dit, écoutez, moi, là, j'enlève mon uniforme et je vous parle en tant que père. Ma femme, elle fait ça avec mes enfants. J'ai réagi comme lui. Et j'avais mon fils dans les bras, qui avait 18 mois à l'époque. Et je suis sortie de la brigade et j'ai été complètement sonnée. J'ai eu... l'occasion de m'expliquer avec lui quelques temps après pour encore une autre main courante, pour pour toute autre chose. Et c'est là qu'il m'a dit « Vous avez toujours été bien accueilli chez nous. » J'ai dit « Ça dépend par qui. » Et il m'a dit « L'enquête a été très bien menée. Hein. C'est moi qui l'ai menée. » Et j'ai dit « Mais vous rendez compte ce que vous avez dit quand même. » Parce qu'au départ, il voulait pas prendre main courante, donc je dis, c'est pas grave, je vais ailleurs. Et il y a un jeune gendarme qui m'a dit, si, en fait, c'est mon travail, donc je vais le faire.
Donc, s'il n'y avait pas eu ce jeune gendarme ?
Ah, je serais allée ailleurs. Je serais allée ailleurs avec plaisir. Enfin, plaisir. C'est un bien gros mot.
Est-ce que vous avez envie de dire où se trouve cette gendarmerie ?
Au Chélard.
Selon une enquête menée avec plus de 3500 témoignages par le collectif Nous Toutes, en 2021, plus d'une femme sur deux a essuyé un refus quand elle a voulu porter plainte pour agression. Dans 66% des cas, on les culpabilise.
Aujourd'hui, votre situation a été classée, a été jugée. sans suite.
C'est ça. Passe d'éléments. C'est pas grave, quoi. Classement sans suite, donc en fait, on met le dossier sous la pile. Une enquête qui a duré 10 jours et des témoins qui attendent toujours 6 ans après d'être entendus. Pendant 6 ans, ça a été « écoutez-moi, croyez-moi, j'ai vécu ça, je ne mens pas ». Et en fait, que ce soit dans les tribunaux, que ce soit même nos propres avocats, pas qu'ils ne nous croient pas, mais stratégiquement, vous comprenez, là c'est mort quoi. On n'essaie même pas parce que ça passera pas. Et de toute façon, c'est du temps, de l'argent, de l'énergie, pour rien. Ça vaut pas le coup qu'on le fasse. Et en fait, quand les professionnels qui sont censés être là pour vous aider, vous et votre enfant, vous disent ça, ben en fait, et les gendarmes, on a confiance en personne. C'est-à-dire que ben maintenant, je vais régulièrement à la gendarmerie. Fort heureusement, ça a changé et ils sont maintenant bienveillants. Mais c'était à chaque fois, pour une simple main courante, je me sentais obligée de me justifier. Je suis là parce que c'est mon avocat qui m'envoie, mais bon, je m'en passerai quoi. Et là, je viens là, oui, parce que je dois le faire. On me dit de le faire parce que moi, je ne viendrai pas. C'était toujours la peur du jugement, du regard et de qu'est-ce qu'on va me dire encore. Qu'est-ce que vous faites là, madame? Vous êtes pénible. Et les professionnels, c'est pareil. C'est, on m'a même reproché de ne pas leur faire confiance. Et je leur ai dit, j'ai mes raisons de ne pas faire confiance parce que je peux pas. J'y arrive pas.
Et comment avoir confiance alors à ces professionnels? Garder la confiance en ces professionnels, c'est grâce à des personnes qui n'ont pas cédé, qui ne sont jamais rentrées dans le jugement, qui vous ont tendu la main jusqu'au bout. Vous avez rencontré ces personnes-là qui vous ont donné confiance,
oui,
à passer de victime, d'être que reconnue comme telle, à je suis actrice de ma réparation et aujourd'hui je suis prête à aller mieux, à en parler, même s'il y a encore du chemin.
Oui, il y a Cultivons la confiance, l'association, des personnes merveilleuses, bienveillantes et qui sont extraordinaires, les femmes aussi. Dans la même situation que moi, qui sont incroyables. C'est précieux. Je ne comprenais pas pourquoi ce nom d'association, Cultivons la confiance, je ne voyais pas trop le lien en fait, avec la cause. Et c'est en y étant que j'ai compris pourquoi on cultive la confiance. Et ça permet d'avoir... d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en les autres, dans des médecins. Et c'est pareil, j'étais tétanisée à l'idée d'avoir des hommes en tant que professionnels. Et en fait, ceux que j'ai rencontrés sont bienveillants et qui prennent au sérieux notre histoire, à tous les deux, et notre vécu. Elles ne sont pas seules. On est ensemble. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir mes proches qui ont pu faire le nécessaire à ma place, qui ont pu préparer mon départ. Toutes n'ont pas cette chance-là. Beaucoup se retrouvent complètement isolées et sans rien. Mais il y a des associations qui sont incroyables, qui sont vraiment là, en fait, pour nous. Et ce qui est fou, pour en revenir à Cultivons la confiance, on est toutes des femmes avec nos fragilités et en même temps, il y a une force qui se dégage incroyable et ça fait du bien. J'avais peur au départ d'y aller. J'avais peur que ça me d'être confrontée à toute cette violence, ça me fasse plus de mal que de bien. Et finalement non, parce qu'on a toutes des histoires différentes, mais on se comprend.
En 2024, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le collectif Viférieux a vu le jour. Né de l'envie de faciliter un dialogue interprofessionnel entre associations, élus, praticiens et gendarmes, il veut informer, interpeller,
et surtout créer un climat de confiance dans la lutte contre les violences isolées et contre les tabous du silence, pour mieux prévenir et agir.
Je me sens bien. Tout n'est pas terminé, mais je me sens bien. Je suis bien accompagnée.
Sur le vif.
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 Sur le vif. Un podcast qui invite à élever la voix, nos voix, contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche. Une production de RDB Radio des Boutières, avec le soutien et la participation du collectif de lutte contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche, collectif Viferieux. Un grand merci à Madeleine Villemino, Elsa Barato et Gaëlle Romeuf pour la création sonore de ce podcast, ainsi qu'à toutes les personnes chez Laroise qui ont prêté leur voix. Retrouvez et réécoutez tous les épisodes sur le vif, les voix de la résilience, en podcast sur rdbfm.com.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes!
Vous venez d'écouter l'épisode 1 de la série Sur le vif, les voix de la résilience, une création radiophonique réalisée par Radio Desboutières. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour écouter l'épisode 2. Briser le cycle de la violence avec l'association Cultivons la confiance.